Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Vous allez à la source ?
Oui, on va essayer.
On va aller au casse-croix.
La deuxième, on a déjà vu. On n'a même pas vu, tu vois.
Là, là, la géographie, là.
Appelle-les là-bas. Qui c'est qui a un bon sifflet ? Qui c'est qui est bien sifflé, les garçons ?
Le mont Jamet-de-Jonc est un ancien volcan. Un volcan qui n'a jamais éclaté. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un NEC, un volcan de type péléen, c'est-à-dire c'est un volcan qui s'est stratifié en grandissant. Il n'a jamais éclaté, ce qui a provoqué donc cette lave qui s'est solidifiée sur place. Il est très beau, il est planté, il est droit, il est avec presque des falaises. Ensuite, beaucoup plus doux quand on vient depuis Sainte-Eulalie. Alors là, c'est vrai qu'on a vraiment cette idée d'avoir, je dirais, presque une boule de foin. Donc voilà, suivant comment on se place, il a différentes formes. Il faut savoir que ce lieu a toujours été un lieu magique, parce qu'un lieu très près des étoiles, c'est un lieu où je me sens bien, c'est un lieu où il y a une certaine aura. C'est tout l'intérêt. Quand on a la chance d'être dans un lieu comme celui-ci, on n'a même plus besoin de rêver, on vit son rêve.
Cela se passe en Ardèche, au nord et à l'ouest du département, à la frontière de la Haute-Loire et de l'Auvergne, entre les communes de Saint-Martial et de Sainte-Eulalie. C'est ici que se dresse fièrement le mont Gerbier de Jonc, et c'est en haut de cette montagne de 1500 mètres d'altitude que se trouverait là où les sources de la Loire que nous allons essayer de trouver aujourd'hui. Car rien n'est moins simple, apparemment, que d'identifier le terrain d'où couleraient les premières eaux du fleuve. Il y a la source authentique, la source géographique et la source véritable, toute concurrente, toute rivale, toute prétendante au titre de source du plus grand fleuve de France, ce qui n'est pas une mince fierté. Sera-t-elle dans la ferme de Loire, comme le prétend son propriétaire Éric, beau-fils du dernier paysan qui a fait de l'élevage dans cette ferme au toit de l'Auze, sur le terrain de Régine, fille de paysan reconverti dans la restauration? Existe-t-elle seulement? Telles sont les questions qui promettent un suspense haletant et qui vous couperont le souffle à mesure que vous grimperez avec nous sur les flancs du Gerbier de Jonc, ou en tout cas jusqu'à 14h30 dans ces pieds sur terre quartier d'été spécial Olivier Minot, avec cette émission diffusée pour la première fois le 21 février 2011.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour. Vous dérange? Vous êtes d'ici, vous?
Ouais, enfin, j'habite ici, ouais, ça fait 4 ans. Moi, je suis né à Paris et je suis un peu nomade dans l'âme. Et en revenant d'Afrique, je suis tombé amoureux de la région. À l'époque, tout le monde partait à Katmandou, moi, je voulais pas aller dans les mêmes coins. Donc, je suis parti à l'inverse, directement dans le sud, direction l'Afrique. Ça, c'était merveilleux pendant 2 ans, ouais. Et après, quand je suis remonté, je suis tombé par ici, là. Je suis passé par ici en stop, et puis... Mais c'était en Haute-Loire, à l'époque. Et là, ça fait que 4 ans que je suis arrivé ici, sur le plateau.
Vous êtes parti tout seul ou vous êtes parti dans un esprit un peu plus communautaire, comme
non,
ça se faisait beaucoup à l'époque?
Communautaire, ouais, mais ça, au bout d'un certain nombre d'années, ça finit toujours en quenouille. En queue de poisson, comme on dit, hein. Et donc tout ce que j'ai pu vivre en communauté, c'était sympa au départ, et puis après chacun a envie d'être un peu plus indépendant et faire un truc différent, etc. Enfin bon, c'est jamais très simple, hein, la vie communautaire. Maintenant, je suis tranquille, tu vois, je suis seul. Ma copine habite Berlin, on se voit de temps en temps, c'est tranquille. On se voit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, c'est parfait.
Vous ne sentez pas seul des fois l'hiver ici?
Non, absolument pas, non. Moi je suis un peu un vieil ours quand même. La solitude ne me pèse absolument pas, quoi. Moi ici je suis bien, regarde. C'est tranquille, t'écoutes les animaux, t'as les renards qui viennent bouffer le soir. Voilà, c'est, t'as une qualité de vie ici que tu n'as nulle part ailleurs, quoi. Mmh. L'année dernière, je suis resté pendant une semaine sans électricité, avec 1,50 m de neige, sans pouvoir sortir. Mais bon, j'ai des raquettes pour me déplacer, des skis, et puis voilà, quoi. Et puis, j'ai de bons bouquins, j'ai plein de films à visionner, donc voilà.
Sans électricité, les films, c'est compliqué, non ?
Ouais, mais là je bouquine. Donc, avec une petite lampe à pétrole, ça va très bien. On est seul sans l'être, hein. On est toujours entouré. Même s'ils habitent à plusieurs kilomètres d'ici, on se voit régulièrement, quoi. Et le rapport humain, c'est chaleureux, justement, dans ces pays rudes. On t'observe, si tu passes plusieurs hivers, on te dit, ok, ça va. Celui-là, il tient le coup. C'est quand même un rustique. C'est l'examen de passage, quoi.
À votre avis, elle est où, la vraie source de la Loire ?
Mais elle est juste au-dessus. La vraie source, il y en a plusieurs. Là, t'en as une qui coule ici, t'en as une autre de l'autre côté, il y en a plusieurs, là.
Et vous avez la vôtre, alors ?
Bah, bien sûr. Elle est pas bien loin, elle est juste en dessous, là. Elle coule de là-haut, hein. Elle est juste en bas. Il n'y en a pas qu'une source. Vraiment, elles sortent toutes à peu près dans les mêmes coins. T'as été voir au Gerbier,
ouais.
La source de la Loire, là, que tu vois à l'extérieur, dans cette ferme-là. Et t'as chez Régine, où t'as la véritable source. C'est une autre source... Et puis, t'en as l'autre. Il y a toujours eu des salades à ce niveau-là, quoi. Personne n'a jamais vraiment réussi à savoir laquelle était la véritable ou l'authentique. Bon, on s'en fout, à dire vrai. On s'en fout complet. Le principal, c'est que ça coule. Ouais, absolument. Ça, c'est primordial. Il y a beaucoup d'énergie sur cette montagne. Pour aller se recharger en énergie, il faut grimper un peu là-haut. On se régénère. Ça fait du bien.
Allez, on va aller voir une première maison qui n'est pas tout à fait en haut du... Enfin, qui est pas tout à fait au pied du Gerbier, qui est un petit peu en dessous sur la route de Sainte-Eulalie. Et qui est une belle maison traditionnelle du coin.
Pour un interview sur les sources de la Loire.
Elles sont pas ici, les sources de la Loire.
Oui, donc c'est un peu plus haut. Tiens, rentrer parce que...
Disons que justement, il y en a au moins 3 déjà, les sources.
Ouais. On m'a dit 200 sources.
Ah oui, ah non,
bah
mais
oui, bon,
chaque
rigole,
les petits ruisseaux. Mais qui vont à un tronc central.
Voilà.
Vous voyez, après, il y a toute une discussion sur les sources, je dirais, hydrauliques.
Ah.
Alors là, je me tairai.
Non, mais la source.
Ah, vous avez l'air d'être au courant quand même.
Oui, mais.
La
bon.
Géographique, c'est Vildal de la Blache qui l'a instituée.
Et puis après, il y a.
C'est celle qui est.
À la ferme là-bas.
À la ferme de Loire.
Ouais.
Ensuite, chez Régine, nous, on pense que c'est la. Pour ce bassin versant, c'est la plus réelle.
Michel, je t'en prie,
voilà.
Vas-y doucement. Hein.
Voilà.
Je vais me fâcher avec personne.
Ah ben non, mais il n'y a pas de lieu de se fâcher.
Non, mais
ici,
là,
vous
là,
en avez 3. N'importe comment, Vidal de la Blache ayant tranché au 19e siècle, ou 18e, fin 18e, je ne sais plus, c'est celle qui est marquée géographique que tous les enfants apprennent à l'école. Donc on ne peut pas aller contre. Hein.
Mais enfin, c'est voilà. Un romantique, Vidal de la Blache.
Voilà. Parce qu'en fait, il a choisi le Gerbier de Jonc, mais ce n'est pas le plus haut pic. Hein. Ce n'est pas le plus haut.
Et puis en plus de ça, voilà. Si vous voulez... j'ai rarement vu un fleuve sortir d'un cône volcanique, hein, au point de vue débit. Vous voyez, j'aime ce pays. On aurait pu vous montrer des photos où la neige montait jusqu'ici. Bon, vous voyez les photos.
Mais alors dans ces cas-là, comment on fait pour sortir?
Eh bien, on creuse un trou et on creuse des marches.
Ouais.
Voilà 2009. Hein.
Alors, diaporama, ah oui, c'est la fameuse année où il y a eu 7 mètres de neige sur la saison.
Vous voyez le premier étage?
Et vous voyez l'arcasse?
Attends, je vais
voilà. Non, c'est pas celle-là.
Voilà, devant, là, où vous êtes rentré, vous voyez, la porte, on n'a pas pu l'ouvrir.
Oui, ça, c'est ça. Michel, oui. Tu avais une autre photo.
Oui, attends, ça va venir.
Mais Michel, oui, t'en vas pas, s'il te plaît.
Mais non.
Mais Michel, s'il te plaît.
Je peux pas.
Mais tu remets en place. Voilà, vous voyez, voilà l'entrée de l'étable. Voilà une des fenêtres du premier étage, ma femme passe à fond la caisse. Non, non, mais c'est tout bon, allez. Vous voyez, regardez, vous voyez, ah.
Et du coup, vous n'êtes pas là toute l'année?
Non, bien 5 mois par an.
Professionnellement, vous savez, je me suis promené à travers la France.
Bien 5 mois par an quand même.
Quand même 5 mois par an. Oui. Plutôt l'été, j'imagine.
Ah non. 3 mois l'été, mais vous voyez, la preuve, c'est qu'on est là bien en hiver.
C'est quand on accueille nos enfants.
Voilà.
Et puis l'été, quand il fait un peu plus chaud, puisque moi, j'ai quand même de l'âge.
Voilà. Oh bah, vous faites pas...
D'après vous, combien j'ai?
Je sais pas, la soixantaine.
Wow. Ah ouais, 79.
79. Ah bah, il manque plus. Donc voilà, cette fois on est bien arrivé au mont Gerbier de Jonc. Un mont qui culmine à 1500 mètres d'altitude. On est tout en haut, tout au nord, tout à l'ouest de l'Ardèche, pas très loin de la Haute-Loire et donc de l'Auvergne. C'est un lieu très touristique puisque c'est au pied de ce mont que la Loire, le plus grand fleuve de France, prend sa source. Mais voilà, il y a débat. Quelle est la vraie source? Qui est vraiment le propriétaire de la source de la Loire? Effectivement, quand on arrive sur ce site, il y a une grande pancarte, la source de la Loire, source géographique, et cette source est à l'intérieur de la ferme de Loire, une ferme qui appartient aujourd'hui à Éric Maréchal.
France Culture, les pieds sur terre.
Moi, je ne connaissais même pas trop le plateau ardéchois. Habitant la Drôme et en ayant la chance d'avoir un département qui est déjà très agréable, je ne m'imaginais pas passer toute une partie de ma vie sur le plateau ardéchois. C'est-à-dire que le problème des Drômois, dont je fais partie, s'imagine toujours avoir quelques supériorités par rapport aux ardéchois. Pour eux, il est évident que l'Ardèche ne possède pas l'économie de la Drôme et que ce sont les parents pauvres de la région Rhône-Alpes. Moi, je suis passé de l'autre côté et je me sens très bien ici. Malgré que c'est vrai que j'entends quelquefois que je ne suis pas, même œuvrant ici depuis quelques années, un vrai Ardéchois. Et en tout cas, un vrai gars du plateau, et je ne serai certainement jamais un vrai gars du plateau. Ce qui est sûr, c'est que pour un certain nombre de gens du pays, moi, je suis un étranger. Je suis, bon, c'est vrai, le FIA, comme ils disent, le FIA du pôle, mais je reste un gendre, un FIA. Je ne suis pas un natif. Mais FIA, c'est tout simplement, c'est le mari de sa fille, quoi.
Donc, en tout cas, c'est ce Paul, ce Léopold qui vous a transmis toute la connaissance de...
Mon beau-père, oui, tout à fait, Léopold, qui malheureusement est encore en vie aujourd'hui, mais atteint d'une maladie qui est vraiment abominable, qui est la maladie d'Alzheimer. Et bon, il faut faire avec, et puis il faut rester dans la continuité de ce qu'il avait fait ici. Lui, c'était un enfant du pays, il était né dans la ferme, donc c'était en 1939. Et puis, les choses de la vie ont fait qu'ils n'ont pas pu s'établir tout de suite dans cette ferme. Et ont voulu, les parents de ce dernier ont voulu tenter une expérience plus bas dans la vallée du Rhône. Et donc, ils partaient l'hiver travailler dans la vallée du Rhône et ils remontaient ici au printemps pour donner des coups de main aux grands-parents. Alors, lui aussi, on peut lui reprocher qu'il n'est pas resté tout le temps au pays. C'est un peu une rengaine, ça. On fait la différence entre les gens qui sont là l'hiver et ceux qui ne sont pas là l'hiver. Malgré cela, il y a quand même des gens qui viennent de l'extérieur et qui arrivent à rester, mais beaucoup s'en vont quand ils connaissent les hivers difficiles.
Alors cette source, c'est la vraie source de la Loire, celle-là?
Ah, celle-là, c'est plus que la vraie, c'est la seule, la vraie. Non, soyons bien d'accord, ce n'est pas une source, c'est un ensemble de sources.
Et là, sur votre ferme, vous avez marqué ici, ferme de la Loire, source géographique de la Loire.
Oui, du reste, source géographique, ça c'était un peu une invention de mon beau-père, parce qu'à l'origine, ce n'est pas ferme, ce n'est pas la source géographique, c'est la source authentique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on vient sur place, quelquefois, on peut s'indigner de voir ce tout petit filet d'eau qui sort dans la case de la ferme, dans le bacha, donc directement dans la ferme. Les gens s'en amusent parce qu'ils disent « Mais pour qui nous prend-on ? Est-ce que ceci peut être la source de la Loire, la naissance de la Loire ?» Bien évidemment, c'est une réalité, c'est la source de la Loire. À l'origine, comme je vous dis, elle s'appelait, c'était la source authentique. Mais comme elle n'est pas la seule et comme les différents propriétaires peuvent prétendre avoir chez eux une source de Loire, eh bien la famille Boucher, un peu plus loin, a déterminé, eux, la véritable et nous l'authentique. Donc voilà, aujourd'hui le souhait du conseil général c'est de réaménager complètement ce site, c'est-à-dire qu'il veut ici mettre son empreinte un peu à la façon des grands sites que l'on trouve tels le pont du Gard ou encore la pointe du Raz, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent c'est cette vision grand site avec la participation d'architectes fameux certainement, où on va nous donner un exemple de dégagement de l'espace. Alors, par exemple, sur la route, on veut ici libérer le visuel. Et on va créer à cet effet une longue promenade en béton de site qui va partir du carrefour qu'on peut situer de ce côté-là, quand je regarde le mont, donc à peu près à 150 mètres, 200 mètres. Jusque de l'autre côté, en allant chez M. Seyt, au restaurant un petit peu plus loin, encore à 200-300 mètres, un long parapet en béton de site qui va être une promenade et qui va permettre aux visiteurs de se réapproprier la vision de la nature environnante. Mais je ne sais pas, moi je me pose la question, est-ce qu'on a besoin de faire un tel parapet pour découvrir le site ? Essaye de te mettre à la place quand même du visiteur parisien. Du reste, le visiteur parisien, il ne comprend pas s'il marche dans un pré. Comme il n'est pas très malin, il n'est pas futé un visiteur parisien, hein, il passe dans un pré, il ne comprend pas qu'il a l'espace autour de lui et qu'il faut visualiser l'espace. Par contre, si ce même visiteur parisien, tu lui fais un tracé bien droit, bien rectiligne, en béton, là il comprend qu'il est sur un trottoir et qu'il faut qu'il regarde l'espace. Et oui, mais elle est là la clé. Pour l'architecte, si à un moment donné tu coupes cette ligne droite, ce cheminement au visiteur parisien, il est perdu. Et pour pas qu'on ait de perte de visiteurs parisiens en nos montagnes, ils ont décidé de me couper mes deux accès, moi, pour faire cette ligne droite pour nos visiteurs parisiens. Et ce que les gens trouvent ici, c'est une nature préservée et où on n'a attendu personne pour la préserver. C'est une nature ouverte où les gens peuvent quand même, dans une multitude d'endroits, se promener et avec une nature gratuite. Vous voyez, comme ce beau bloc de pierre qui est là devant nous, qui est escaladé à l'année par les enfants du pays, un bloc de 14-15 tonnes, avec aucune partie saillante, qui une fois posé à plat par terre, fait 30-40 cm d'épaisseur. Eh bien, pour moi, c'est ça la vie, c'est ce que les gens recherchent quand ils viennent découvrir une nature ici, c'est ce rappel de leur enfance, cette appropriation de la nature. Mais cette appropriation de la nature, nous, l'avantage, c'est que nous l'avons déjà. Et ça, en fait, on veut nous la retirer aujourd'hui, pour nous faire une réappropriation de la nature. Voilà, ça c'est un peu comme le pastoralisme qu'on veut recréer alors qu'il est présent et qu'il existe de partout ici. C'est un ensemble de choses qui me dépasse un peu, surtout pour un projet qui va quand même dépasser les 5 millions d'euros. Il faut quand même s'imaginer ici que nous sommes dans un pays qui n'est pas des plus riches, que nous avons énormément de difficultés à entretenir nos routes, nos chemins, qu'en hiver, certains villages restent bloqués parce que la déneigeuse est en panne et que nous n'avons pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Et il est malheureux, fort malheureux, de voir qu'autant d'argent dépensé alors qu'il y a des nécessités dans le pays.
Bon. Alors, toujours à proximité du jardin de Jean. J'ai laissé ce tas de cailloux derrière moi pour couper à travers moi. Oula, ça s'enfonce, c'est boueux, c'est neigeux. Toujours à la recherche de la source de la Loire. Aïe. La vraie, l'authentique. Et le but, c'est d'arriver chez Régine, S'il y a une maison, tu peux cacher. Il y a une petite pancarte, visiter la véritable source de la Loire. Et ouais, c'est ici, du coup. Régine ! Y a quelqu'un ? Bonjour.
Eh ben, mon mari était d'ici, donc on est venu reprendre le commerce en 71.
D'accord, donc c'était déjà touristique en 71, il y avait un commerce ?
Ah oui, déjà il y avait un commerce, oui. Oui, oui, le resto a été construit en 1937 par mes beaux-parents. D'accord. Ils ont voulu faire les deux, hein.
Ah oui.
Ils ont fait le commerce et la ferme en même temps. Ouais, ouais.
Qu'est-ce que vous faites l'hiver ici alors ?
On fait de la lecture. On joue aux cartes. On s'habitue aussi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des hivers rudes. Hein.
2009-2010, on a eu 7 mètres de cumul. Sur du 10 décembre jusqu'à fin mars. 7 mètres de cumul, c'est énorme. C'est là où on a eu autant de dégâts, autant de toitures qui ont passé à travers cet hiver-là. Ouais, ça a été éprouvant. Et l'accès pas bon, évidemment. L'accès fermé. Là, la route est restée fermée 5 semaines. Ouais, et puis bon, quand en plus la lumière, il y a une coupure d'électricité sur 48 heures, voire plus, ça dérange.
Ça, c'est arrivé déjà ?
Oui, ça est arrivé. Donc l'année de ces 7 mètres de cumul, là, on a eu de la neige très très lourde. Un dimanche, on a dû avoir un mètre dans la journée. Et la neige, évidemment, a cassé les poteaux électriques. Et on est resté donc en panne d'électricité du dimanche midi jusqu'au mardi soir. On se débrouille. Pas d'électricité, pas de téléphone, quoi, parce que c'est sans fil, il marche pas, quoi.
On a rien.
Donc si vous aviez un vieux téléphone, ça va encore. Sinon, ouais. Les portables, ils ont marché jusqu'au lundi midi. Après, terminé, plus de portable non plus. Ouais, là, c'est dur. Non, c'est très dur. Bon. Moi, j'ai un vieux téléphone, alors ça va. Il a jamais tant fonctionné dans ses 72 heures que cette année-là. Et ouais. Mais bon.
C'est ça, c'est notre vie. On est ici. Les gens qui.
Les gens de la vie, qui ne sont pas ici.
Ouais,
une semaine, ça va, mais sinon, ils s'ennuient. Nous, on est. Voilà. Hormis l'agriculture et le tourisme et un petit peu d'artisanat, stop. Des jeunes couples qui se sont installés pour faire repartir une ferme, quoi. Donc, la population ne peut pas monter, hein.
Ouais, nous, on a perdu une école quand même au village.
On a perdu une école. Bon, on avait
à Sainte-Eulalie.
On avait deux écoles. On a perdu l'école publique.
Ça fait déjà combien d'années, quoi.
Ça fait une dizaine d'années. L'école publique a fermé, ce qui est quand même exceptionnel.
On n'a plus qu'une école. On avait une poste. On est devenu agence postale. Donc, agence postale, c'est la commune qui manage. Donc, voilà, quoi.
On avait plusieurs commerces. On avait deux boucheries. Deux épiceries,
deux hôtels,
dans
le village, à Sainte-Eu.
Et alors, est-ce que c'est ici la vraie source de la Loire ?
Bien sûr. Mon voisin, il vous a dit pareil. Hein. Eh oui, elle est là, juste en bas.
Ça vous fait rire ?
Non, moi, ça me fait pas rire. C'est comme ça. Voilà, quoi. Il y a deux sources, elles se rejoignent. Bon, les gens, voilà, mais ça fait discuter les gens, parce que les gens, ils aiment bien. Ah, tiens, il y a deux sources, pourquoi ?
Il y en a que deux ?
Oui. Celle chez mon voisin,
chez Eric.
Ouais. Et puis la nôtre. Mais voilà, il n'y a pas de polémique. Et je suppose qu'en 1962, il n'y en avait pas non plus, hein.
Alors vous dites qu'il n'y a pas de polémique, mais vous en jouez. Quand on marque la véritable.
Mais nous, ça nous fait rire. Ça nous fait rire, je veux dire, on est voisins, on fait l'apéro ensemble, terminé, quoi. On n'est pas, on se tire pas la bourre parce que voilà, quoi.
Alors, on est de retour à la source. source de la Loire, à la source géographique, donc au pied du Gerbier. Il y a un groupe d'enfants avec un animateur, on va aller voir ce qu'ils se racontent.
Alors ce qu'on en raconte ici en fait, c'est que ce genre de maison comme ça, ce genre de ferme était construite à la base juste à un endroit où il y avait une source qui coulait. Et c'est valable pour toutes les fermes qui sont ici sur le plateau du Mézin. Et la particularité de cette ferme-là, sans forcément le savoir, c'est qu'ils ont construit cette ferme sur les sources de la Loire. Voilà, donc du coup, bah, coule à l'intérieur maintenant les premières sources de la Loire. Alors attention, de dire que c'est la source unique, c'est pas vrai. La source de la Loire, c'est celle-là, plus les 200 autres qui sont ici autour sur le bassin. Mais de dire que c'est celle-là, ou celle d'en haut, ou celle d'en bas, ou celle d'un peu plus loin, c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, si jamais on imaginait qu'on fasse une recherche vraiment scientifique pour savoir quelle est laquelle, bah c'est aucune de celles qui sont ici au bord de la route.
Ah bon ?
Ah non, elle est beaucoup plus loin. Elle est vers une montagne qui s'appelle la Lozière.
D'accord.
Voilà. Mais du coup, elle ne s'appelle plus Loire, là-bas. Elle a un autre nom, elle s'appelle l'Aiguenègre. Voilà, c'est un tout autre ruiceau.
Et voilà, pourquoi ça serait celle-là, la vraie ?
Alors, officiellement, on attribue scientifiquement le terme de source d'un fleuve par rapport à l'origine de la source, qui est celle qui est la plus haute en altitude et la plus longue en distance par rapport à l'embouchure. Voilà, et si vous regardez sur une carte IGN, vous allez vite vous rendre compte que toutes les sources qui sont ici au pied du mont Gerbier de Jean ne sont pas celles qui sont les plus loin de l'océan Atlantique. Celle qui est la plus loin, c'est l'Aiguenègre, celle qui est au pied de la Lozière. Okay. Et donc du coup, ben, on aurait dû appeler le fleuve Loire, aurait dû s'appeler finalement l'Aiguenègre. Donc ça aurait changé beaucoup de choses. Hein. Finalement, le département de la Haute-Loire ne s'appelait pas la Haute-Loire, mais la Haute-Aiguenègre. Les châteaux de la Loire ne s'appelleraient pas les châteaux de la Loire, mais les châteaux de l'Aiguenègre. Voilà. Et le Gerbier de Jean serait peut-être certainement beaucoup moins touristique. Bon, il le serait aussi, c'est stratégique, il est au bord de la route, c'est bien pratique quand même. Parce que l'Aiguenègre en question, elle est vraiment perdue hein, au milieu de la montagne.
Bon, tout le monde a vu la Loire ?
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre avec une semaine de best-of Olivier Minot et la recherche des sources de la Loire. Un reportage évidemment signé Olivier Minot, réalisé par Nathalie Battus avec un coup de main d'Alexandra Malka. Merci à Eric Maréchal, à Chantal Bresse, à Régine Boucher, à Nicole Chapu, à Sylvain Ronchon, à Patrick et à l'abbé Jouffre. Depuis la diffusion de cette émission, donc pour la première fois en 2011, la fameuse esplanade qui est évoquée dans ce reportage a été construite. Le site des sources de la Loire a été complètement bétonné pour en faire un énorme site touristique et plus de 500 000 personnes y passent chaque année.